Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 16 septembre 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Nucléaire iranien et le vertige israélien. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'adhésion permanente de l'Iran à l'OCE, l'Organisation de coopération de Shanghai, officiellement annoncée. S'adressant à l'Organisation de coopération de Shanghai, le président Raisi appelle les membres à aider à développer un commerce durable basé sur le multilatéralisme. Et puis, nucléaire, nous sommes déterminés à défendre fermement les droits de l'Iran et du peuple iranien. Déclaration du président iranien. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. L'adhésion permanente de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, a été officiellement annoncée par le président de l'Ouzbékistan. L'adhésion permanente de l'Iran à l'OCS a été annoncée, accompagnée des applaudissements des participants. Les dirigeants des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai se réunissent pour un sommet de 2 jours en Ouzbékistan, dans la ville de Samarcande. Sur l'invitation officielle de son homologue ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, le président Raïsi, s'est rendu à Samarcande à la tête d'une délégation de hauts responsables politiques et économiques. L'Iran vient de signer un mémorandum d'adhésion permanente à l'OCS, annoncé jeudi 15 septembre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Cette signature intervient quelques heures avant le début du sommet de Shanghai en Ouzbékistan, le jeudi 15 septembre. Le chef de la diplomatie iranienne saluant la signature d'un mémorandum d'engagement pour rejoindre l'OCS l'a qualifié de nouvelle phase d'interaction avec l'organisation. La capitale ouzbèque, Samarcande, accueille le sommet de l'organisation les 15 et 16 septembre en présence des chefs d'État et d'observateurs. Mercredi, le président iranien Ebrahim Raïsi est arrivé dans la capitale ouzbèque à la tête d'une délégation de haut niveau pour participer aux réunions du sommet dans le cadre de sa première visite officielle en Ouzbékistan. L'Organisation de coopération de Shanghai, créée en juin 2001, comprend 8 pays, la Russie, la Chine, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, le Pakistan, l'Inde et l'Ouzbékistan, tandis que la Turquie est devenue un partenaire de dialogue au sein de l'organisation en 2012. L'Iran, le Pakistan, l'Inde et l'Afghanistan ont rejoint l'organisation en 2005 en tant qu'observateurs alors que l'Inde et le Pakistan sont devenus des membres permanents de l'organisation en 2016. L'Afghanistan continue à être membre en tant qu'observateur. L'Iran vient de devenir un membre permanent avec une nouvelle adhésion. Le président iranien Ibrahim Raisi vient de s'adresser au 22e sommet des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai ce vendredi dans la ville ouzbek de Samarkand. Tout en remerciant les membres de l'OCS pour avoir finalisé l'adhésion permanente de l'Iran à cette organisation régionale importante, le président a déclaré « Cette organisation devrait favoriser un commerce durable entre les membres en faveur des échanges financiers, de marchandises et de données, et cela en adoptant des programmes appropriés, conjoints. » Pour le président de la République islamique d'Iran, de par une telle coopération, l'organisation peut compenser l'unilatéralisme de Washington. Ibrahim Raisi a déclaré que les politiques multilatéralistes, commerciales et politiques peuvent faire face à des menaces et aux défis destructifs. Le chef du gouvernement iranien dénonce les États-Unis pour avoir intimidé d'autres nations et utilisé à des fins intéressées la pression politique comme outil. Ibrahim Raisi a également critiqué les États-Unis pour leur présence de longue date en Afghanistan. Il a déclaré qu'une telle intervention militaire US et sa longue présence dans le pays n'a apporté rien d'autre que le terrorisme et l'insécurité. Malgré leurs échecs consécutifs, a-t-il ajouté, les États-Unis continuent d'adopter leur mauvaise politique et s'acharnent sur leur présence dans d'autres coins du monde. S'adressant toujours à la tribune de l'Organisation de coopération de Shanghai, M. Raisi a insisté sur le fait que le droit international ne devrait pas être appliqué par les pays qui propagent le terrorisme, l'occasion pour eux d'en user et d'abuser. Le président iranien, dont le pays devient membre permanent de l'Organisation de coopération de Shanghai, a appelé à cette occasion à des relations commerciales durables entre les membres de l'OCS. Il a souligné le potentiel de l'Iran dans les secteurs du transit et de l'énergie pour développer davantage les liens entre les membres du bloc. Le président iranien a rejeté tout pourparler direct avec les États-Unis pour relancer l'accord sur le nucléaire de 2015, abandonné unilatéralement en 2018 par les États-Unis, affirmant que de telles négociations n'avaient aucun intérêt. Dans une interview avec la chaîne Qatari Al Jazeera, Ibrahim Raisi a déclaré que les intérêts de la nation iranienne ne sont pas basés sur des négociations directes. Le président Raisi, dans une interview accordée à Al Jazeera, a souligné « Nous sommes déterminés à défendre fermement les droits de l'Iran et du peuple iranien ». Il a déclaré qu'il revient maintenant aux États-Unis de prendre une décision finale sur la relance de l'accord connu sous le nom du Plan Global d'Action Conjoint PGAC. Ibrahim Raisi, s'attardant sur les sanctions destructives américaines, se demande pourquoi les nouvelles sanctions américaines contre la nation iranienne en pleine négociation visant à trouver un accord. Pourquoi la partie américaine prend de telles mesures contradictoires ? Pour le président iranien, si les États-Unis veulent un accord, elle doit faire preuve du réalisme et de bonne volonté. Il a souligné que la levée des sanctions doit être accompagnée d'une garantie afin de parvenir à un accord fiable et durable. Ailleurs, Raisi a souligné que les progrès dans les pourparlers de relance du PGAC nécessitent également la résolution des problèmes de garantie avec l'Agence nucléaire des Nations Unies, AIOA, et le règlement définitif des questions ambiguës. L'Iran a répété à plusieurs reprises que l'accord est possible si et seulement si les États-Unis agissent de manière réaliste. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré que son pays avait reçu un nouveau pétrolier de l'Iran. Sur la base d'un contrat entre Téhéran et Caracas, l'Iran livrera un total de 4 pétroliers au Venezuela. Les deux pays sont tous deux visés par des sanctions américaines. Ces dernières années, ils ont élargi leur coopération, notamment dans le secteur de l'énergie. En juin de cette année, les présidents iraniens et vénézuéliens ont signé un document de 20 ans visant à élargir davantage les relations bilatérales. Le document se concentre sur la coopération pétrochimique, pétrolière, économique, touristique, culturelle et politique. Il a été signé lors de la visite de Maduro à Téhéran. Lors des récentes rencontres entre les hautes autorités des deux pays, dont entre le ministre iranien du pétrole et le président vénézuélien, les deux parties ont discuté et convenu sur le renforcement de la coopération pétrolière ainsi que sur l'exportation de produits pétroliers et pétrochimiques. l'exportation de services techniques et d'ingénierie, la reconstruction et la modernisation des raffineries et le développement des gisements de pétrole et de gaz restent à l'ordre du jour des coopérations Téhéran-Caracas, tous deux victimes des sanctions américaines. Nucléaire iranien et le vertige sioniste. Depuis que l'administration Biden a entamé des négociations indirectes avec l'Iran à Vienne, le régime sioniste a émis des avis contradictoires sur l'état d'un nouvel accord nucléaire et la levée des sanctions contre l'Iran. Avant son départ pour l'Allemagne, dimanche 11 septembre, le premier ministre israélien Yair Lapid a estimé que la campagne diplomatique menée par Israël pour empêcher la conclusion de l'accord nucléaire de 2015 est un succès. Il a toutefois ajouté qu'il restait un long chemin à parcourir. La nouvelle offensive d'Israël consiste clairement à tenter de convaincre les puissances occidentales, incluant le trio européen, à savoir la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, de ne pas renouveler l'accord sur le programme nucléaire de l'Iran, conclu en 2015. L'entité sioniste considère que l'accord actuellement en renégociation et en agonie ne freinera pas le programme nucléaire iranien et favorisera la levée des sanctions économiques, ce qui pourrait permettre à Téhéran d'accroître son soutien financier à ses alliés comme le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Ceci dit, les prévisions des autorités israéliennes devraient faire long feu si l'on mesure les multiples rebondissements durant les mois qui ont suivi le début des pourparlers de Vienne, dont voici un aperçu. Le 18 avril 2021, le site web Axios rapporte peu après le début du premier cycle des négociations que pour la direction du renseignement militaire israélien Amman, les pourparlers aboutiront au retour des États-Unis au PGAC, Plan Global d'Action Conjoint sur le nucléaire de 2015, ce qui est une source de préoccupation pour Israël. 10 jours plus tard, le 28 avril, ce même site précise que la question n'est plus si, mais quand les États-Unis reviendront à l'accord international. Le 5 janvier 2022, les responsables israéliens ont prétendu que les négociateurs iraniens perdaient leur temps à Vienne, mais qu'un accord semblait plus probable. Pour Tel Aviv, il serait très surprenant qu'une sorte d'accord ne soit pas conclu à Vienne, a déclaré un responsable israélien à Axios. Le 4 janvier 2022, Al-Monitor rapporte que selon les estimations de Tel Aviv, il y avait peu de chances de parvenir à un accord. Mais les choses ont vite évolué. Et Tel Aviv pense maintenant que les parties concernées se dirigent vers un nouvel accord. Le 26 avril 2022, le journal Israel Hayom cite des responsables diplomatiques sionistes et affirme que la chance de parvenir à un nouvel accord sur le nucléaire iranien est de faible à nul. Le 17 août 2022, la chaîne 13 de la télévision israélienne évoque l'avancée de l'Iran vers la signature de l'accord nucléaire. La semaine dernière, les responsables israéliens chargés du dossier iranien ont estimé que l'Iran ne voulait pas d'un accord. En quelques jours, cette appréciation a changé, lisait-on dans un rapport de la chaîne. Le 28 août 2022, David Barnouin, le chef du Mossad a déclaré lors d'une conférence de presse que l'accord nucléaire avec l'Iran a été conclu et devait être signé dans les prochains jours et qu'il devait se rendre à Washington pour en discuter. Se référant à un rapport du département de recherche du ministère israélien des Affaires étrangères qui n'a pas été rendu public, le Times of Israel a expliqué le 3 septembre que malgré les différends entre l'Iran et les États-Unis, un accord devrait être conclu d'ici les prochaines semaines. Le 8 septembre, le régime sioniste estime que les chances de relancer l'accord nucléaire sont très faibles. Dans une interview accordée au Yediot Ahronot, des sources israéliennes ont qualifié l'espoir de l'Union européenne quant à la relance de l'accord de faux optimisme. L'approche politique et militaire du gouvernement vis-à-vis de l'accord est également critiquée dans les territoires occupés. L'état d'occupation sioniste semble s'opposer au monde entier, qui s'est plus ou moins uni pour vouloir contrôler le programme nucléaire de l'Iran par des moyens diplomatiques, tandis qu'Israël s'en tient bêtement à l'approche violente. Sa démarche est dénuée de sagesse politique et il est clair qu'il existe un certain nombre d'intérêts contradictoires entre le régime d'Israël et les États-Unis. De nombreux Israéliens estiment que le nouvel accord est moins profitable que ce qui était sur la table auparavant. Le fait est qu'Israël ne peut s'attendre à rien de mieux, tandis que l'Iran a fait de grands progrès dans la production de centrifugeuses et peut enrichir l'uranium plus rapidement qu'auparavant.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, malgré le fait que la France ait retiré ses troupes du Mali et bien sûr essaie encore de contrôler encore le Mali et d'autres pays voisins tels que le Burkina Faso, le Niger, etc. Mais le Mali ne veut rien savoir de France. Justement, et la France, qui a pillé la richesse de ce pays pendant 8 ans sous prétexte de lutter contre le terrorisme, est partie, bien sûr. Et naturellement, le Mali, les responsables maliens ont déclaré qu'ils détenaient des preuves selon lesquelles la France même fournissait des armes et des renseignements aux terroristes. Voilà. Nous allons également parler de l'arrestation de 49 Ivoiriens, des soldats ivoiriens, sur le sol malien, qui ont entré illégalement dans ce pays. Et le Mali, bien sûr, exige l'extradition des responsables et des dirigeants maliens qui se sont donc cachés en Côte d'Ivoire. Voilà. À présent, j'ai le grand plaisir de vous présenter nos deux chers invités, en commençant par M. Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue et à toute votre équipe.
C'est un plaisir de vous recevoir, M. Luc Michel. Un grand bonjour à M. Elie Hatam, juriste international depuis Paris. M. Hatam, bonjour.
Bonjour et merci de votre invitation. Et un très grand bonjour à mon ami, M. Michel.
Merci de consacrer votre temps à l'émission du débat, un débat qui s'annonce prometteur. Ma première question va s'adresser à vous, M. Luc Michel. Alors, vu la situation en Afrique et la France qui fait tout pour revenir donc dans certains pays, dont le Mali, alors que le Mali ne veut rien savoir de France. Que pensez-vous ?
Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'il y a deux blocs en Afrique, le bloc américain occidental et le bloc de l'Est qui se font la guerre. Et le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont des proxys, comme on dit en anglais, de cette guerre qui est menée par procuration. Le Mali a fait le choix du bloc de l'Est. Il y a un axe Algérie, Russie, Mali qui est actuellement, qui fait la guerre aux Occidentaux, qui s'oppose aux Français, aux Allemands et surtout aux Américains. De l'autre côté, Ouattara, c'est une marionnette des Français. Depuis la neutralisation du Sénégal, les Français et les Américains ont quitté le Sénégal. Et aujourd'hui, la base arrière des Occidentaux, c'est la Côte d'Ivoire où sont déployées notamment les forces spéciales françaises et américaines. À partir de Abidjan, il y a un certain nombre d'opérations de déstabilisation du Mali. Il y a un président qui se déclare le président élu du Mali, qui est un fantoche français. Il y a un certain nombre de politiciens qui sont poursuivis au Mali par des mandats d'arrêt pour des raisons de corruption, mais aussi des raisons de déstabilisation et de collaboration avec les djihadistes. Et c'est ces gens-là dont Bamako exige l'extradition. Mais il est bien certain qu'il n'y a aucune complicité entre Ouattara et le Mali. Au contraire, Ouattara est entièrement le porteur de valises des Occidentaux.
Voilà, merci. Alors, je m'adresse à M. Elie Hatam, juriste international depuis Paris. M. Hatam, donc, M. Luc Michel a très bien décrit donc, la situation et bien réparti donc, l'influence donc, du bloc américain et bien sûr, l'Occident. Mais récemment, donc, on était témoin de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens qui se sont rendus illégalement sur le sol malien. Et donc, le Mali a profité de la situation pour exiger l'extradition des dirigeants maliens qui se sont cachés en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, la France a toujours une grande influence et le Mali ne veut rien savoir. Que pensez-vous?
Eh bien, écoutez, j'ai une autre vision compte tenu des éléments qui sont en ma possession, de certaines personnes qui sont impliquées aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Mali que dans les autres pays de l'Afrique francophone. Parce qu'il y a une rivalité dans ces pays entre la France et les pays anglo-saxons et les Américains. Et ce sont les Américains qui voient depuis longtemps d'un très mauvais œil la présence française en Afrique, notamment au Mali, mais dans les autres pays et surtout la coopération. Dire qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sous influence, je permets de vous dire que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a la bénédiction américaine qui a permis à M. Ouattara de se représenter de son élection à la même. Aujourd'hui, il y a un jeu américain. Il faut peut-être dévoiler, qui est très important, la déstabilisation de la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, ex-Zaïre, avec la présence américaine au Rwanda et ce jeu que les Américains sont en train donc, de faire pour déstabiliser la RDC et pour compléter leur stratégie. Celui de la déstabilisation totale de l'Afrique, en particulier l'Afrique francophone. En ce qui concerne le Mali, la situation est encore beaucoup plus là parce que pour simplifier les choses, pour avoir une certitude, car sur le terrain, nous avons quand même eu des éléments assez importants, car ce n'est pas la Russie, je dis, officielle qui est intervenue. Qui est intervenu donc en Afrique, mais ce sont des sociétés privées, c'est les sociétés en fait du standard qui interviennent, parlent des sociétés donc de mercenariat, qui ont une intervention différents services secrets, notamment des services américains, qui ont pour objectif de créer une tension entre les différentes forces. Autrement dit, les Français, avec l'opération Berkane, d'ailleurs, il faut sourire parce que cette opération pour objectif de sécuriser d'une manière indirecte la France, protéger les intérêts français, je me rappelle fortement l'intervention en Russie, de la Russie, pardon, en Ukraine, c'est une menace pour la sécurité. Cette intervention a été condamnée internationalement et non pas celle de la France au Mali et au Sahara. Je ferme cette parenthèse, mais je reviens au bras de fer franco-russe au Mali et dans le Sahara. Et C'est complètement faux, parce qu'il faut dire que ce sont les services américains qui ont fermé donc les yeux, qui ont permis à partenaires privés russes d'intervenir et de cette façon être manipulés indirectement par les Américains dans cette situation, c'est de chasser la France et à déstabiliser la région. Et qui parle en fait de M. Ouattara et de la Côte d'Ivoire, dit quand même qu'il y a des intérêts américains qui sont en train de jouer avec l'ensemble et mettre sur le dos donc, de la France ce conflit ou ce litige qui est relatif par la détention de 46 soldats et pas 46 soldats ivoiriens qui sont entrés donc de Mali, parce que dans le cadre de cette coopération, donc militaire à laquelle participait la Côte d'Ivoire, et il y a quand même les personnes donc recherchées par les autorités maliennes actuelles, parce qu'il faut rappeler que ces gens sont venus après un coup d'État, donc il ne faut pas trop d'interdire. La situation est beaucoup plus compliquée qu'on le démontre, parce qu'il y a une activité principale et ethnique au sein même du Mali, et il y a des forces étrangères qui mettent de l'huile sur le feu. Je ne dis pas que la
oui, un tout à jeu fait, oui.
est complètement, je dirais, sans intérêt. Au contraire, la France a besoin également de protéger ses intérêts, comme les anglo-saxons également le font. Donc, c'est la situation telle qu'elle, avec les informations donc, que nous possédons en France, et puis surtout de cette interférence.
Absolument.
Grands acteurs dans cette région qui est encore beaucoup plus compliquée à comprendre que d'autres régions dans le monde.
Absolument. Monsieur Luc Michel, vous avez entendu les propos de Monsieur Ali Hatam.
Je ne suis pas du tout d'accord avec eux.
Allez-y, je vous en prie.
C'est la version du Quai d'Orsay et de la diplomatie française. Mais moi, j'interviens directement au Mali, notamment médiatiquement. Je suis proche des gens du Yerevolo. Et je peux vous dire que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Tout d'abord, c'est un jeu à trois. Il y a un agenda américain, un agenda français, un agenda russe. Il est inexact de dire que ce sont les firmes paramilitaires russes qui interviennent. Ça, c'est le Quai d'Orsay, c'est Macron qui affirme ça. En réalité, il y a des accords entre l'État russe et l'État malien, d'État à État, et les firmes paramilitaires russes qui interviennent sous le contrôle du grand état-major russe, sont là à ce titre d'activité. Maintenant, il y a un jeu de rivalité et de complicité entre les Français et les Américains. Les Français veulent être éjectés par les Américains du précaré français. Les Américains veulent américaniser et otaniser la guerre du Sahel. Et les Français qui ne sont pas d'accord parasite les plans américains. En 2019, lorsque Ouattara s'est représenté, il y a eu une opération de l'administration Trump sous le trafic de drogue qui visait le premier ministre de l'époque, Bakayoko, il est mort aujourd'hui, et qui l'accusait d'être le baron de la drogue de Côte d'Ivoire. Le but, c'était de chasser Ouattara et de mettre un régime pro-américain au pouvoir à Abidjan. Ouattara a accepté de jeter du lest et aujourd'hui, il est autant lié avec les Américains qu'avec les Français. Voilà, donc actuellement, il répond à l'agenda américain, il répond à l'agenda français. Tous les deux sont opposés au régime de Bamako et ne mènent pas les mêmes opérations. Voilà ce qui est en train de se passer. Mais c'est clairement actuellement la rivalité entre Français et Américains, elle n'empêche pas la solidarité. Il y a une contradiction interne dans le bloc américain occidental. C'est que l'allié principal géopolitique, c'est-à-dire les pays de l'OTAN et la France, qui est l'ancien gendarme des Occidentaux en Afrique, mais en même temps, il y a la guerre économique Europe-USA et dollar-euro, pour lequel les Américains veulent éjecter les Français. Et pour ça, ils se servent des Allemands. Donc c'est un jeu extrêmement complexe, mais toutes les informations distillées par le Quai d'Orsay Paris, c'est de l'intoxication. Il faut clairement dire là-bas que l'opposition de la France et des États-Unis autour de Ouattara, elle est terminée depuis 2021 et la Russie intervient bien dans le cadre d'un État. C'est donc une opposition entre l'OTAN et la Russie.
Monsieur Eli Hatam, est-ce que vous voulez bien réagir, je vous prie?
Oui, alors je voudrais réagir sur un point qui est très important, c'est aussi le point de vue des Américains. Les Américains sont en train de caresser dans le sens du poil donc, les Français pour leur faire rêver et croire qu'ils sont en train donc, de protéger leurs intérêts et leur existence en Afrique, alors que l'objectif principal des Américains, c'est d'éjecter la France. Deuxièmement, la façon dont les Américains voient la présence russe en Afrique, ils considèrent que les Russes viennent tout juste de connaître le continent africain et ne sont pas si forts d'un point de vue diplomatique et politique pour comprendre ce continent. Et d'ailleurs, vous le savez, il y a quelques années, moi je t'en parlais à mes amis russes, en particulier à mon ami Mikhail Bogdanov, qui est toujours d'ailleurs le conseiller donc, du président sud-afrique, je disais toujours, il y a une incompréhension totale de la part de la Russie au sujet donc, de l'Afrique. Donc dire aujourd'hui qu'il y a cette opposition, non, moi je pense que les Américains pensent que les Russes ne seront pas en Afrique longtemps et que de toute manière, il faut absolument éjecter les Français et, comme l'a dit M. Michel, et instaurer une sorte de Pax Americana et puis d'une influence américaine, d'une mainmise américaine également sur l'Afrique.
Absolument. Monsieur Luc Michel, je me rappelle très bien dans une interview, vous avez dit que bon, pendant des décennies, l'Occident et les Américains ont tout fait pour affaiblir militairement, économiquement ce pays, pillant la richesse de ce pays. Mais depuis la présence russe et peut-être même de l'Iran dans ce pays, et particulièrement au Mali, ils ont apporté la stabilité et la sécurité.
Mais je suis tout à fait opposé à dire que les Russes ne comprennent rien à l'Afrique. Depuis 2015-2016, Poutine a décidé de revenir sur les pas de l'Union soviétique en Afrique. Les Américains disent qu'ils sont revenus sur les champs de bataille de la guerre froide. Et depuis, ils mènent la guerre hybride avec l'aide des Iraniens d'ailleurs qui l'ont inventé au Liban. Les Iraniens sont en appui de la Russie depuis 2018. Ils mènent une politique intelligente de pénétration en Afrique qui concerne 14 pays. Aussi bien la Russie que l'Iran, ce sont des puissances pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens financiers et militaires des Américains, et donc ils développent la guerre hybride pour intervenir à moindre frais, notamment avec des firmes paramilitaires. Mais la politique russe est une réussite, et dire que les Américains ne sont pas inquiets de cela, c'est tout à fait inexact. Depuis quelques mois, ils ont développé une contre-attaque intelligente qui vise la Russie. Il y a tout d'abord un volet économique. C'est la nouvelle loi américaine qui a été votée au Congrès et qui est actuellement en cours de discussion au Sénat, qui vise à empêcher les investissements économiques russes en Afrique et à sanctionner les États africains qui travaillent avec la Russie. Il y a un volet médiatique pour faire la guerre de communication. Les Américains ont créé le Global Engagement Center, qui est un organisme spécialisé pour faire la guerre médiatique en Afrique. C'est eux qui ont lancé toute la campagne contre le soi-disant groupe Wagner, qui n'existe pas. En réalité, il y a 11 firmes paramilitaires. Et la firme qui est active en Centrafrique et au Mali, c'est un groupe qui s'appelle CEWA Sécurité. Les Français ont copié-collé la campagne américaine contre Wagner. Enfin, il y a une pénétration de l'OTAN et de l'Africom. Au départ, l'OTAN et l'Africom ne s'intéressaient qu'à des pays d'Afrique du Nord, c'est-à-dire essentiellement le Maroc, l'Algérie et la Libye. Mais aujourd'hui, l'OTAN est en train de se déployer dans une zone qui va du Maroc jusqu'à la mer Rouge. Les Américains, notamment les forces spéciales américaines, sont présentes partout. Et c'est dans ce plan qu'ils veulent éjecter les Français de l'Afrique centrale et les redéployer dans la côte de l'Afrique, notamment en mer Rouge et au Mozambique. Les Français ne sont pas d'accord pour des raisons économiques. Et Ils sont venus parasiter les plans américains, notamment le plan d'américanisation de la guerre du Sahel. Oui. C'est ce qui se passe actuellement, bien entendu. Et le Mali est en pointe dans la lutte, évidemment, entre les deux blocs, c'est-à-dire entre les Français, les Américains d'un côté et les Russes de l'autre. Mais ça n'empêche pas que le but final des Américains, c'est d'éjecter les Français d'Asie centrale, d'Afrique centrale.
Tout à fait. Monsieur Luc Michel, pour terminer le débat d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup connaître votre opinion sur l'arrestation de 49 soldats ivoiriens sur le sol malien qui se sont entrés donc illégalement dans ce pays et que maintenant le gouvernement malien exige l'extradition de certains dirigeants maliens qui sont donc cachés au Mali. Est-ce que vous êtes sûr déjà que c'est une chose sur l'affaire ou bien il se cache quelque chose derrière cette politique?
C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a la plainte du Mali contre la France au Conseil de sécurité. Le Mali a déposé un certain nombre d'arguments et pour le moment, la France prépare une réponse à ces arguments. Mais le Mali a piégé les Français. C'est-à-dire qu'en plus des arguments qui sont présentés actuellement, le Mali dispose d'un certain nombre de preuves, notamment l'avion des mercenaires qui n'étaient pas du tout des forces liées aux Nations Unies, étaient chargés d'armements qui ont été saisis et les Maliens possèdent des documents. Donc, avec l'aide de la Russie et de la Chine qui président le Conseil de sécurité, ils veulent piéger les Français. Ça, c'est le volet mercenaire. Ce sont entrés au Mali avec des Français bleus, puisque la mine, étant que ces gens ne disent pas, ce qui est totalement faux. En réalité, ces gens qu'on présente comme des soldats, ils disposaient de faux passeports dans lesquels ils ont des professions comme cuisine ou gens travaillant dans le bâtiment, alors qu'il s'agit en fait de mercenaires. Mais en aucun cas, leur profession de militaire ne fonctionne sur les passeports ressaisis à Bamako.
Absolument.
Donc c'est une opération beaucoup plus complexe qu'elle n'est présentée. Maintenant, le Mali se sert de cela pour présenter un certain nombre de demandes et notamment neutraliser la déstabilisation du pays qui est menée à partir d'Abidjan, notamment la présence d'un président qui se dit le président du Mali et qui est un fantoche, mais un fantoche c'est français. Il est manipulé par les Français, pas du tout par les Américains.
Tout à fait.
Et un autre agenda, mais ils ne sont pas liés à cette affaire de mercenaires.
Absolument. Monsieur Eliatta, votre point de vue sur la plainte auprès des Nations Unies contre la France et bien sûr cette extradition exigée par le Mali.
Bien, écoutez, vous savez, donc, c'est une véritable tension. Il faut dire une chose, c'est que les relations actuelles entre le Mali et la France sont vraiment au point mort. Mais il y a une médiation qui est en cours pour calmer donc, ce jeu, parce qu'il ne faut pas, bon, c'est mon côté en fait nationaliste français qui parle aussi, c'est que nous ne devons pas laisser tomber quand même nos intérêts en France. Je ne dirais pas comme du temps de mon ancien client Bob Denard, qui intervenait à la demande donc, de M. Focard, des réseaux Focard en Afrique, cette page est complètement tournée. Mais aujourd'hui, il y a d'autres moyens pour préserver nos intérêts et pour éviter notre éviction de ce continent auquel nous sommes liés, non pas simplement à part des intérêts économiques de ressources naturelles, mais également culturelles, et ce qui est très important pour que la France puisse exister sur la scène internationale. D'où cette médiation actuelle qui est en train de se faire à l'intervention du Togo. Et je pense que les jours qui viennent ou les semaines qui viennent feront preuve d'un certain rapprochement entre la France et le Mali. Il faut rappeler une chose, que lors des dernières élections, il y a 2 ans et demi donc, de ça au Mali, le candidat qui était plus proche donc, de la France était M. Soumaïla Cissé. N'a pas le soutien nécessaire pour être président. Ce qui prouve que ce rôle français au Mali est un peu exagéré de la part des médias et de certaines personnes qui disaient que la France pouvait faire ce qu'elle veut ou peut faire ce qu'elle veut en Afrique, elle pouvait le faire, comme je le disais, du temps des réseaux Focard, du temps de Bob Denard, mais cela s'est beaucoup résorbé actuellement à cause de cette influence, interférence et ce soft power américain, mais également aujourd'hui de l'implication
absolument
de le continent africain.
Tout à fait. Monsieur Eli Hatam, juriste international depuis Paris, merci beaucoup d'avoir assisté à cette émission. Merci à vous, Monsieur Luc Michel, qui est avec nous depuis Bruxelles. Nous clôturons le débat d'aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Le 29 août, le chancelier allemand Olaf Scholz a prononcé un discours à Prague qui a été considéré par les commentateurs européens comme une déclaration officielle à la candidature de Berlin au rôle de leader stratégique de l'Union européenne. La volonté de l'Allemagne de devenir un acteur géopolitique à travers l'Union européenne se montre en plein jour alors que cette volonté politique avançait en mode camouflage sur la scène politique européenne et internationale. Les habitués des conférences de presse au Bundestag, à la chancellerie allemande, au Parlement européen ont cependant pu, durant les dernières années, assister à la montée de cette volonté politique allemande de diriger, reléguant la France à un rang subalterne. Ursula von der Leyen, l'ex-ministre fédérale du Travail et des Affaires sociales et de la Défense, qui est actuellement la présidente de la Commission européenne, harangue son pays à prendre le leadership et profite du conflit en Ukraine pour faire avancer les pions stratégiques de son pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz a prononcé un discours à l'Université Charles, dans la capitale de la République tchèque, pays qui assure la présidence de l'Union européenne pour ses 6 mois. Il a appelé l'UE à se préparer à intégrer les Balkans occidentaux, l'Ukraine, la Moldavie et à l'avenir la Géorgie. La volonté d'élargir l'Union européenne est annoncée. Olaf Scholz a fait aussi savoir, pour poursuivre son expansion, que l'Union européenne a besoin d'un certain nombre de changements fondamentaux. La réforme du Parlement européen est prévue, ainsi que le rejet du principe de l'unanimité dans la prise de décision dans le domaine des affaires étrangères et de la politique fiscale de l'Union européenne, tout cela sous le slogan « pour mieux protéger la démocratie et les valeurs de l'Union européenne ». Le point clé du discours de Olaf Scholz est la thèse selon laquelle l'UE doit se transformer en une union géopolitique capable d'actions décisives à l'échelle mondiale. À cet égard, le chancelier allemand a proposé de former une force militaire de réaction rapide européenne d'ici 2025 que l'Allemagne entend diriger. Le chef du gouvernement allemand a également appelé à la création d'un système unifié de défense aérienne en Europe. Le 31 août, dans le développement des idées exprimées par Olaf Scholz, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a présenté un plan pour construire les relations futures entre l'Union européenne et la Russie qui comprend 4 points. Nous parlons de renforcer la défense nationale, de soutenir les adversaires de la Russie, de soutenir l'Ukraine et de travailler avec des partenaires mondiaux dans le domaine de la protection du droit international. Avec la France, elle prend une réorientation de la politique UE-Russie. Les propositions allemandes ont été envoyées pour être discutées entre les participants de la réunion informelle des ministres des Affaires étrangères de l'UE qui s'est tenue à Prague le 30 et 31 août. Que pourraient signifier les dernières déclarations de Berlin? Depuis son arrivée au pouvoir en décembre dernier, Olaf Scholz est confronté à la nécessité de trouver une issue à l'enchevêtrement serré des contradictions qui tourmentent la classe politique allemande. À l'intérieur du pays, le nouveau chancelier devrait à la fois continuer avec le cap initié par Angela Merkel et surmonter la stagnation provoquée par la volonté de l'ancienne chancelière allemande de maintenir le statu quo. Berlin continue de s'interroger sur les moyens d'éviter un choix définitif sur la transformation de l'Union européenne en un pôle autonome d'influence internationale et un nouveau refroidissement des relations avec les États-Unis. Pendant ce temps, l'administration Biden, avant même le conflit en Ukraine, a exigé que l'Allemagne et les autres membres de l'Union européenne abandonnent leurs ambitions stratégiques en faveur de la cause commune de l'Occident. Ce n'est qu'une fois que le président Vladimir Poutine a effectivement lancé son opération militaire que le nouveau chancelier allemand Olaf Scholz a réorienté la politique de son pays à l'égard de la Russie et a annoncé un programme de dépenses pour la Bundeswehr sans précédent dans la période de l'après-guerre froide avec 100 milliards d'euros. L'objectif dit de 2% de l'OTAN sera aussi atteint en moyenne sur plusieurs années. Le voisin polonais qui jette un œil inquiet sur la politique allemande et qui vient de réclamer des réparations concernant la Seconde Guerre mondiale, notez que sur le fond de lutte pour l'Ukraine, où se dessinent les contours d'un nouvel ordre mondial, la position de l'Allemagne reste la principale inconnue. Alors que les tensions montaient en Europe de l'Est, Olaf Scholz a même été accusé d'être prêt à échanger sans sourciller les intérêts de l'Ukraine contre de bonnes relations avec le Kremlin. Wolfgang Ischniger, président de longue date de la conférence de Munich sur la sécurité, a tweeté « Malheureusement, l'ambiance internationale s'est retournée contre l'Allemagne il y a longtemps. Il faut vite sortir de ce piège, parce que si la guerre devait se terminer avec succès pour la Russie, les gens pointeraient rapidement du doigt l'Allemagne lorsqu'ils essaieraient de trouver les coupables. Les conséquences pour l'Allemagne et l'Union européenne sont à peine inimaginables. Les intérêts stratégiques allemands et les plans à long terme pour l'avenir étaient attaqués. Berlin fait face à la crise de sécurité européenne la plus grave depuis des décennies. Une crise de confiance de la part des autres pays de l'Union européenne et l'effondrement de leur diplomatie économique traditionnelle. Il en va de l'Union européenne qui, malgré sa taille et sa puissance économique, n'a pas su se positionner comme un acteur indépendant des relations internationales, incapable de protéger et de promouvoir ses intérêts de sécurité en restant totalement dépendante de Washington. D'ailleurs, de nombreux observateurs doutent des ambitions de réarmement de l'armée allemande en peu de temps. La réaction initiale de Olaf Scholz semblait non seulement décisive, mais même menaçante. Il a évoqué dans son discours de Prague le tournant d'une époque dans la politique européenne et mondiale. Il a exprimé la volonté de Berlin de punir Moscou de la manière la plus décisive et de soutenir Kiev, notamment en fournissant des armes, car l'Ukraine a des valeurs démocratiques. Cependant, les mesures pratiques de l'Allemagne ont rapidement provoqué une désillusion croissante parmi les faucons européens et américains. L'Allemagne se retrouve coincée dans le conflit ukrainien. Olaf Scholz a appelé à un cessez-le-feu rapide en Ukraine, faisant augmenter les pressions sur Berlin qui semblait se défiler dans son soutien à l'Ukraine. Les Allemands ont été accusés de manière violente, en particulier par Kiev, d'avancer à reculons dans l'envoi d'armes lourdes formellement promises à Kiev. Puis, lorsque les premières livraisons ont débuté, les reproches ont commencé à pleuvoir sur une Allemagne jetant de l'huile sur le feu. À la suite des résultats du sommet de l'OTAN de juin dernier, le Sunday Times a déclaré que la principale alliance militaire de l'Occident était divisée et que l'Allemagne faisait partie du groupe des Colombes qui préconisait la conclusion rapide d'un accord de trêve même au prix de concessions territoriales de l'Ukraine. En juin, Olaf Scholz s'est finalement rendu à Kiev avec le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Mario Draghi, où, selon les médias occidentaux, il a fortement recommandé que les dirigeants ukrainiens reviennent à la table des négociations de paix avec la Russie. Au vu de ces déclarations, le discours de Prague de Olaf Scholz peut être interprété comme une réponse allemande à la fois aux partisans de la transformation géopolitique de l'UE et aux néo-atlantistes convaincus qu'une UE plus forte et plus indépendante est plus dans l'intérêt de Washington face au déclin de l'hégémonie américaine. Rappelons que le 8 novembre 2019, dans son premier discours, Ursula von der Leyen a déclaré que l'Union européenne devait également apprendre la langue du pouvoir et a déclaré que la Commission européenne, dirigée par elle, devrait être géopolitique. Olaf Scholz avance dans les souliers de la présidente de la Commission européenne. Cependant, plusieurs questions se posent. Premièrement, les Européens et les Américains sont-ils prêts à accepter des ambitions aussi flagrantes de Berlin en matière de politique étrangère? Washington et Bruxelles ont-ils besoin du leadership allemand ou ont-ils seulement besoin d'argent et d'armes allemands? Lorsque Olaf Scholz a lancé quelques idées sur la centralisation et le renforcement de la politique étrangère commune de l'Union européenne, en juillet dernier, de nombreux membres de l'UE n'ont pas exprimé d'enthousiasme pour cela. Berlin a exprimé sa volonté de partager le siège au Conseil de sécurité des Nations unies de la France à l'ONU et d'employer les atouts de la bombe atomique française. Observateur Continental rapportait que des déclarations en Allemagne font comprendre que le président français Emmanuel Macron est en train de livrer la clé de la force de frappe française à l'Allemagne et à l'OTAN, même si ce dernier disait au début de son premier mandat refuser le retour de la France au sein de l'OTAN en vantant une Europe militaire forte. La France va-t-elle accepter ce leadership sans broncher ?